بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Chers frères en islam, toutes les louanges reviennent à Allah Azza wa Jal qui nous accepte ce soir pour ce deuxième cours de tafsir sur la sourate Nuh. La semaine dernière, on avait plutôt expliqué, on n'avait pas démarré le tafsir, mais on avait fait un comparatif entre le peuple. On avait essayé de mettre en avant les similitudes entre le peuple de Noé, Nuh alayhi salam, et les Quraysh, le peuple de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et on avait dit que lorsqu'Allah azza wa jal raconte, révèle au prophète alayhi salat wa sallam l'histoire de ses frères prophètes, c'est pour que ces anbiya soient bien sûr un modèle pour lui, mais également tasliya, un encouragement pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, afin qu'il voit que avant lui il y a eu d'autres prophètes, d'autres nabis, d'autres rasouls qui ont été envoyés vers leur propre peuple, les gens qu'ils côtoyaient, qu'ils connaissaient et qui les respectaient depuis toujours. Mais à partir du moment où ces prophètes ont invité les gens vers l'unicité d'Allah, ils ont été refoulés, ils ont été insultés, ils ont été parfois même frappés. Et donc le prophète alayhi salatu wassalam est en train de vivre ces difficultés à Makkatul Mukarrama. Comme on a dit, répété, que la sourate est makkiya. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam vit avec une poignée de sahaba les années les plus difficiles de l'histoire de l'islam. Et jamais la umma ne connaîtra une époque aussi difficile que la période makkiya. La période où l'islam a commencé, gharib, étrange, à Makkah. Et pour rester dans le droit chemin, pour rester musulman, pour rester croyant, il fallait lutter, il fallait être très fort spirituellement, mais également psychologiquement. Et très souvent, quand on est fort spirituellement, on devient fort psychologiquement parce qu'on sait s'en remettre à Allah. Même s'il y a 1000 personnes, c'est l'exemple qu'on donne à chaque fois, qui te pointent du doigt, qui te menacent, qui disent plein de choses, qui essaient de t'humilier en public, mais tu sais que ton Seigneur est avec toi, ben cela est amplement suffisant pour le croyant, et du coup il est fort spirituellement et il se renforce psychologiquement et il peut avancer. Et lorsque ce même Seigneur te fait des promesses que ce message que tu portes, ben tu vas y arriver, bi'idhnillah, il portera ses fruits, ben là tu y crois avec fermeté parce que tu as une confiance totale en Allah Azza wa Jal. Et de cette façon, tout ce qu'Allah nous a promis pour l'accomplissement des bonnes actions, exemple la prière. Tout ce qu'Allah nous a promis pour l'éloignement de tout ce qui est haram, exemple le fait de rompre les liens avec la famille, le fait de ne pas faire l'adultère, de contrôler son regard, et ainsi de suite. Quand on croit fermement en la promesse d'Allah, ben on devient fort. Fort parce que cette croyance, elle est basée sur cette confiance en Allah, est basée sur un iman billah qui est solide, et psychologiquement devient fort parce que l'homme faible, qui complète ce hadith, avant que je perde le fil, l'homme faible n'est pas celui qui est fort dans la lutte. L'homme faible, c'est pas celui qui est fort dans la lutte, hadith prophétique. L'homme faible, excusez-moi, l'homme fort. Ah, les costauds là, ils ne se sont pas reconnus là. L'homme fort, excusez-moi, ce n'est pas celui qui est fort dans la lutte, mais l'homme fort, c'est celui qui se contrôle dans les moments de colère. Dans les moments de colère. Et ça, on a tous à apprendre de ce hadith en premier. Des fois, quelqu'un vous embête, des fois, quelqu'un vous... Voilà, il persiste dans des choses qui vont à l'encontre de vos consignes. Si vous êtes chef d'entreprise, si vous êtes père de famille, ben vos enfants ne vous écoutent pas. Si vous êtes marié, madame, il fait toujours des trucs à travers. C'est pas comme on l'avait prévu en famille, en mâchoirant, et ainsi de suite. Après, ça peut être des choses genre, il y a quelqu'un qui se garde dans ton parking, il y a quelqu'un qui... Ça y rend violent, ça, hein. D'accord ? Ben, tout ça, on a à apprendre, à retenir et à se perfectionner, à faire sa propre thèse qu'il y a, par les enseignements prophétiques et se dire que, voilà, je vous donne un exemple très clair. Il y a 3 jours, je devais aller à la madrasa. Et bon, il y a des responsabilités, il faut accueillir les enfants, être là-bas en premier. Donc voilà, il faut y être, d'accord? Certains peuvent se permettre d'arriver un peu en retard, mais quand on a des responsabilités, il faut y être avant tout le monde. Il y a une dame qui arrive en même temps que moi, qui se gare. Elle me voit arriver, elle me dit, elle fait un signe déjà, bon. Pourquoi faire un signe alors que c'est moi qui dois sortir? Et puis, il me fait comprendre d'attendre. Voilà, moi, j'ai pas répondu oui, je vais attendre. Elle a compris que, voilà, j'ai pas dit non, j'ai pas crié, j'ai rien. Je suis resté comme ça pour faire comprendre que non, je vais pas attendre. C'est l'autre partie, je dois aller travailler. Et voilà, et elle commence à parler avec quelqu'un. Alors là, franchement, c'est dur, hein? C'est très dur, c'est très dur. Bidnillah, je n'ai rien dit de mauvais. C'est une dame, d'accord? Et ensuite, il se trouve que cette dame me connaissait. Je n'avais pas reconnu. Bon, vous voyez, on ne scrute pas non plus. Hein. Puis j'ai compris qu'elle avait de gros problèmes. Elle avait de très gros problèmes. Et ça m'a beaucoup affecté. Ça m'a beaucoup affecté parce qu'elle a de gros problèmes. Et vous voyez, c'était quelqu'un qui était qui était très mal dans sa peau. Et je dis que Allah facilite. Je ne sais pas c'est quoi, je ne vous demande pas, mais je vois tout de suite que ça ne va pas. Allah vous vienne en aide et tout. Alors imagine, là, on est sur ces grands chevaux. D'accord, dit, ouais, au nom de quoi, c'est mon parking. Miskine, la personne est déjà mal psychologiquement, je ne sais pas qu'est-ce qui a pu lui arriver, on ne peut pas savoir le contexte familial ou autre chose. Et là, on vient, on rentre dedans, ça ne doit pas se passer comme ça. Même si dans la société, dans la cité, ça se passe comme ça, mais moi, je prends du recul et je me reconnais en tant que croyant, en tant que mu'min. Je le dis, je prends cet exemple pour que moi-même, j'apprenne à mettre ça en pratique. Allah me donne tawfiq à moi en premier de mettre en pratique, parce que ce sont des choses qui ne sont pas faciles. Donc, l'homme fort, c'est... Voilà, je savais que j'allais perdre le fil, là. On est parti avec la colère. Allahu Akbar, Allahu Akbar. J'avais commencé une phrase avec l'homme fort. Oui, mais avant ça, avant qu'on emboîte avec la colère, il y avait autre chose. Qadar Allah. On parlait de la force qu'on peut avoir pour s'éloigner des choses haram. Bon, on peut aller dans ce sens aussi. Ça a un sens. L'islam était difficile. Barakallah fik. On va dire que l'homme fort, le musulman qui est fort, c'est celui qui, dans les moments de tentation, oui, voilà. L'homme fort psychologiquement, c'est celui qui ne suit pas ses instincts. À chaque fois que ton nafs, j'utilise le mot instinct, à chaque fois que ton nafs, tes passions, tes pulsions, t'invitent vers un péché et que tu le suis, tu es en train de t'affaiblir psychologiquement. Parce que, à un moment donné, ce n'est plus ta raison qui domine, c'est ta passion. Et la seule passion qu'on peut prendre, ce sont les fruits de la passion en été. Mais à part ça, ittiba'ul hawa, ça c'est la pire des choses. C'est-à-dire, plus l'homme va suivre ses passions, moins il pourra utiliser sa raison. Et moins on utilise sa raison, c'est-à-dire plus on suit ses passions, moins on est fort psychologiquement. Ça veut dire qu'on vacille, on peut douter à chaque fois. C'est-à-dire, et là on peut prendre tous les exemples de péchés, de tentations possibles. Moi, je vais prendre un péché au hasard, comme ça, hein. C'est pas parce que c'est vous. Le contrôle du regard. Attention, là, on est en fin d'hiver, l'été qui arrive. Vous voyez juste les collections dans les vitrines. L'été promet d'être chaud. Je parle de température. Non, ne détournez pas mon discours, s'il vous plaît. Et à chaque fois que le croyant suit ses passions, il a envie de regarder, enfin, il l'a flashé, et il va regarder, tu t'affaiblis spirituellement, ça c'est clair, il y a besoin d'expliquer ça, spirituellement parce que tu as suivi ton nafs et shaitan, et tu t'affaiblis psychologiquement aussi parce que tu deviens une personne faible, qui n'a pas de force mentale, qui n'arrive pas à avancer droit et qui va regarder à droite, à gauche, à droite, à gauche. Et Allah protège, mais si je pousse un peu loin le bouchon, si on est dans cette spirale de... On appelle ça en arabe « itlaq al-basar ».« Itlaq al-basar », c'est le contraire de « radd al-basar ».« Radd al-basar », il y a dans le Coran « qu'il lil-mu'minina yaghuddu min absarihim » et pour le féminin « wa qu'il lil-mu'minat yaghuddu dhulbuna min absarihinna, le fait de contrôler son regard. Le contraire, c'est itlaqul basar, c'est la personne qui laisse libre cours à son au mauvais regard, c'est-à-dire ben il scrute, il fait le vigile et voilà, il regarde tout ce qu'il a regardé, mais sans jamais réaliser que au moment où je suis en train de faire ces péchés, Allah me voit, m'observe, sans jamais se rendre compte que il y a un ange là à gauche qui est en train d'écrire ses péchés, parce que ça s'appelle un péché. Ça s'appelle un péché. Mais quand on s'enfonce dans ittiba'ul hawa, le fait de suivre ses passions, même si tu as la connaissance religieuse, même si tu es formé par le ilm, tu finis par mettre de côté ton ilm. Tu mets ton ilm derrière ton dos parce que tu as envie de le faire. Parce que à un moment donné, là, c'est comme si tu es lâché complètement et il n'y a plus rien qui peut te rattraper. Allah musta'an. Ni ta connaissance, ni ta formation, ni ta, et c'est ça qui est le plus désolant, ni ta crainte et ton amour pour Allah. Et ton amour pour Allah, c'est faire en sorte, éprouve de la honte aux musulmans. Réalise que quand ton Seigneur te voit en train de le désobéir délibérément, tu dois avoir honte de te mettre dans une situation où Allah te voit de le péché. Tu dois être conscient que cet ange-là est en train d'inscrire ses péchés et que ce péché te sera présenté le jour de Qiyam. Ça, j'ai pris un exemple pour qu'on réalise que ben, quand on regarde ce qui n'est pas bon ou quand on écoute ce qui n'est pas bon, et peu importe, prenez n'importe quel exemple de péché, voilà dans quel cercle vicieux, au sens propre et figuré, voilà le cercle vicieux. Et je disais autre chose tout à l'heure, que quand une personne a des années de pratique, c'est malheureux de le dire, des années de pratique de surveillance, d'accord, où la personne ne contrôle pas son regard, on peut craindre même pour le vrai zina un jour. Parce qu'à force de regarder toutes les femmes qui passent, ça veut dire que son cœur a envie de regarder, son cœur est attaché à ce genre de choses. Imaginez, Allah protège, nous protège tous de ces tentations et de ces propositions. Indécente, haram et voilà, ces tentations on va dire. Imaginez une seconde qu'à l'issue d'un regard, la femme aussi te regarde et que la personne sent qu'il y a une attraction. C'est pas juste le regard pervers là. Là, il y a eu un regard, un retour de regard intéressé. Mais ton iman est déjà tellement affaibli par cette spirale de ittiba'ul hawa qu'on peut craindre que on fasse un autre pas, un échange de paroles, et puis ça peut aller vers le vrai haram, le zina qui est le summum en termes de ittiba'ul hawa, qui est le plus, la pire des passions qu'un homme peut suivre, c'est suivre son nafs dans l'adultère, qu'Allah nous protège. Donc, on revient, on essaie de se raccrocher, revenir vers le tafsir, notre monde ne démarrera pas sur la tnouh. On va aller directement vers le verset. Inna arsalna Nuhan ila qawmihi an anzir qawmaka min qabli an ya'tiyahum adhabun alim. Nous avons envoyé Noé vers son peuple. Nous c'est qui? Allah. Et le nous en arabe c'est, enfin le pronom personnel n'est pas cité parce qu'il est inclus dans le verbe, après c'est un peu technique. Il est inclus dans le verbe arsalna, c'est le nun alif à la fin. Mais lorsqu'Allah Azza wa Jal cite quelque chose qu'il révèle, c'est toujours avec le pronom personnel nous, nahnu. Mais bien sûr, ce n'est pas calqué avec la langue française où nous c'est pluriel, non. C'est le nahnu majestueux qui représente Allah Azza wa Jal. Donc nous avons envoyé Noé vers son peuple. Avertis ton peuple avant que leur vienne un châtiment douloureux. Premier point, et là c'est une piste de réflexion, les savants disent, voyez, on a une situation qu'on avait expliquée la dernière fois, où le peuple de Nuh alayhi salam est dans le shirk, oui ou non? C'est le premier peuple, la première umma, à avoir adoré des idoles. Le peuple de Nuh alayhi salam, on avait expliqué la méthodologie de Shaitan, pour amener ces gens vers l'adoration, le fait qu'ils vénéraient les anciens, les gens qui étaient pieux, jusqu'à en faire des associés, à tomber dans le polythéisme. On a une situation de péché, et on a une situation qui peut être salvatrice, une situation qui est créée par Allah, c'est le fait qu'Allah envoie nous, alayhi salam. Et les savants disent qu'il y a là une leçon de qada wal qadr, une leçon dans la croyance sur le destin. Qui a créé cette situation que ces gens sombrent dans le shirk? C'est Allah qui a décidé. Mais quand Allah a décidé, que c'est un peu dur à suivre ça, hein, et c'est pas un exercice de logique, non, c'est un exercice spirituel. Allah a décrété que ces gens tombent dans ce shirk. Mais avant de tomber dans ce shirk, Allah leur a donné le libre arbitre. Tout le monde connaît c'est quoi le libre arbitre? La possibilité de choisir entre le bien et le mal. C'est-à-dire que c'est pas que leur destin c'était d'aller vers le shirk, il n'y avait aucune solution possible. Abadan. Et ça c'est un pilier, une base dans notre iman sur le destin, c'est qu'Allah t'a prédestiné quelque chose, mais avant que tu t'orientes vers cette chose, Allah te donne le choix. Et en fonction du chemin que tu vas prendre, Allah connaît à l'avance quel aura été ton choix. Et c'est là qu'on décroche à un moment donné. Parce que nous avons des équations beaucoup plus simples, nous, entre vouloir, prévoir, réaliser et tout. Parce qu'on fonctionne sur une échelle humaine. D'accord? Faut savoir que c'est surtout pas avec la raison, avec l'intelligence, on va dire, qu'on peut comprendre le destin. Ça, c'est pour ça que le destin se fait partie de iman. Iman bil qada wal qadr. Ça ne s'étudie pas de le fiqh. Parce que le fiqh, la jurisprudence, ça se comprend. Tu comprends la règle de Masla. Tu as compris la règle du Musafir. Tu as compris la règle de Tayammum, les limites et ainsi de suite. Ça se comprend, ça s'applique. Et avec l'application, on peut aller vers le qiyas, qui est l'analogie. On calque sur un masla pour un autre masla parce que tout ça, ça se comprend. Mais le destin ne fait pas partie des abwabul fiqh. Croire au destin, justement, on le dit croire au destin, ça fait partie des branches de la foi. Sixième branche de la foi. Et les savants disent que celui qui a complété et parachevé la foi sur le destin, il a atteint les plus hauts degrés de iman. Son iman est complet. Parce que c'est le plus difficile. Tout comme on ne peut pas comprendre le destin avec l'intelligence, ben voyez, un autre pilier, une autre branche de la foi, croire aux anges. Il n'y a pas à vous dire plus que ça. Vous n'allez pas comprendre les anges avec votre logique. C'est un concept, une révélation, une annonce d'Allah Azza wa Jal, on y croit. Il y a des choses qu'on ne maîtrise pas, enfin on ne maîtrise rien du tout, hein, du monde des anges, mais on sait que c'est Allah qui nous a dit que ça se passe comme ça. Allah les a créés pour telle chose, telle raison, c'est comme ça que ça fonctionne. Amanna billah wa saddaqna. D'accord? Et pareil donc pour le destin. Il y a des petites choses qu'on peut percevoir, mais on se dit que c'est Allah qui décide. Donc, quand le peuple de Noé, je répète, sombre vers la perdition, c'est leur destin, mais avant de sombrer dans cette perdition vers leur destin, ils avaient le choix. Et c'est pareil pour n'importe quel être humain, parce que ça, c'est une sunnah d'Allah qui ne change pas ça, avec le peuple de Noé, alayhi salam, ou nous. D'accord? N'importe quelle personne qui accomplit une action bonne comme mauvaise a toujours le choix. Quand un dimanche matin, ton réveil, hein, il sonne à 5h40, quelle heure il faut déjà aller ici, hein, ici 6h, tranquille. Il sonne à 5h45 et que vous vous réveillez, ça a dû arriver à tout le monde, hein, et on se dit que, ah, alhamdoulilah, aujourd'hui dimanche, je profite encore un petit peu, et que tu t'endors, tu redors plutôt, et que après quand on ouvre les yeux, gros soleil dehors, les 9h. Petite, la gare, Ratfajar, comment il fait et tout. T'es marqué comme ça. Attends, tranquille. Allez, doucement. Le dernier phrase n'a pas sa place. Il t'est marqué comme ça. Ouais, mais il y a bien quelqu'un qui s'est réveillé, qui a été un réveil. Voilà un petit exemple pour qu'on comprenne que c'était écrit dans ton destin que le dimanche 1er septembre, que la personne Ratfajar, c'était écrit dans son destin. Mais il a eu le choix. Il a eu le choix de le faire ou de ne pas le faire. Et c'est par rapport à ses choix qu'il arrive vers quelque chose. Et là où on décroche, c'est quand on parle du ilm d'Allah. Allah connaît le choix que tu allais prendre, le chemin que tu allais prendre. C'était prédestiné parce qu'il savait à l'avance, avant même que tu sois né, Allah savait quel choix tu allais faire à telle date. Est-ce que c'est un peu plus clair? J'ai essayé de vous présenter ça de façon, pour qu'on comprenne, quoi, Inch'Allah, qu'Allah nous accepte. Et nous renforce notre foi sur le destin parce que ça règle tous les problèmes de notre vie. toutes les situations critiques, difficiles, mais également les situations de bonheur. On sait que c'est Allah qui m'a donné. C'est pas mes muscles, c'est pas mon intelligence, c'est pas la sueur de mon front, c'est pas mes diplômes, c'est pas que mon papa n'ait un grand nom, du tout, il n'y a rien de tout ça. Allah t'a accordé ce ni'ma parce qu'Allah t'aime. Il a voulu t'honorer et t'éprouver par ce bienfait. Donc, voilà, ne te prends pas pour... D'accord, je n'ai pas d'expression correcte. Tout est vulgaire dans ce genre d'expression, d'accord. Et reste, fais preuve d'humilité. Fais preuve d'humilité. Et dans les situations d'épreuve, de difficulté, sache que cette maladie ou le fait que une personne ne puisse pas avoir d'enfant ou qu'il y a eu un décès dans sa famille ou il y a tel problème, ben c'est ce qu'Allah a prédestiné. Donc ne cherche pas forcément à trouver des coupables ou autre chose. Sache que Allah t'a prédestiné cette difficulté et derrière ça, il y a quelque chose pour toi. Il y a une ouverture exceptionnelle. Il y a une récompense divine et qu'on verra dans le Akhira. Mais pour le moment, tiens beau. Attache ça à ta ceinture, tiens beau et lâche pas. Et va pas pleurer auprès des gens. Ne va pas raconter ta peine aux gens. Ne cherche pas le réconfort auprès des êtres humains. Parce que cet être humain, il a peut-être d'autres difficultés. Et c'est inutile d'aller chercher du réconfort auprès d'un être humain. Parce que peu de gens ont de l'empathie officiellement. À part que si tu les payes parce qu'ils ont un diplôme. Et ça, oui, les psychologues ont de l'empathie. Quelqu'un m'a dit, tel psychologue, franchement, quand il m'écoute, on va dire, oh bye, paye. Aujourd'hui, on fait une séance gratuite. Quelqu'un écoute à haut ou quelqu'un y comprend. On ne les comprend plus où. Alors, il faut arrêter de... D'accord. Et donc, mais faisons comme Ya'qub alayhi salam. Qu'est-ce qu'il a dit Ya'qub alayhi salam? Ceux qui trouvent le verset, on clôture l'assemblée. Ya Hudhaifa. Innama ashku bathi wa huzni ila man? Ila Allah. Dans des moments difficiles où il a déjà perdu qui? Yusuf alayhi salam. Il a perdu, il vient de perdre qui? Binyamin, le petit, il sait que tout ça c'était des mensonges, on l'a trompé et tout, mais il dit, je me plains auprès d'Allah. C'est-à-dire, garde tes larmes, tes soupirs, tes plaintes pour ton Seigneur, réveille-toi de le dernier tiers de la nuit et dis à Allah, Ya Rab, ce que je vis, c'est difficile. Et toi seul, tu sais que cette situation est délicate, mais c'est toi qui as envoyé l'épreuve. Ya Allah, envoie ton ouverture, envoie ta nusra. Et puis chacun trouve ses termes par rapport à ses situations de difficulté. Voilà. Donc en finalité, on n'a pas réellement démarré la sourate Nour, mais on a parlé d'un concept. La perdition, tout comme le péché, c'est prédestiné, mais Allah te donne le choix. Et ce choix-là, cette situation peut être changée par des asbab. Allah peut envoyer des intermédiaires. Et là, pour le peuple de Nour, c'est quoi l'intermédiaire? Plutôt, c'est qui? Ben, c'est Noé. C'est Nour, qui, par sa prêche, peut toucher les cœurs. Et on verra, bi'idhnillah, à la suite du tafsir, que ces gens-là avaient largement le choix. Mais que, comme on l'avait dit en introduction, ils étaient trop fiers et arrogants. Les nobles ne voulaient pas le suivre. Parce qu'il y avait qui avec Nuh alayhi salam? Il y avait les pauvres. Il y avait les gens qui étaient de la classe la plus basse de la société. Ils ont dit que wattaba'akal ardhalun. Ces gens-là te suivent. Donc, nous, on ne marche pas avec des gens-là. Ils ne sont pas de notre niveau. Donc, on se rend compte qu'ils avaient le choix. Mais il y avait quelque chose de leur cœur. Des choses extrêmement négatives qui font qu'ils n'ont pas suivi la vérité. Qu'Allah Azza wa Jal nous protège de tous les péchés intérieurs, de tous les péchés extérieurs, nous protège des tentations et nous permettent de rester fermes dans le droit chemin. Rabbana tawfiq illa billah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.